Nous entretenons une relation très forte avec Al Capone. Une relation amour-haine. La plupart des habitants de Chicago ne tiennent pas à lui être associés. Et pourtant, il est une part extrêmement importante de notre image à l'étranger. Et je crois que nous nous débattons avec cette image. Michael Jordan a bien essayé de détrôner Al Capone, mais sans succès. Ce qui en dit assez long, car Michael Jordan est une très très grande célébrité.
D'abord, il est tout en haut parce que c'est le plus visible. Il est tout en haut parce que c'est le plus puissant. Il est tout en haut parce que c'est le plus dangereux. Il est tout en haut parce qu'il est le premier industriel du crime, quoi. Il a réussi à cet extraordinaire enracinement criminel à Chicago, Cicero. Et plus de 100 ans plus tard, toujours là.
Al Capone, roi des gangsters. Une grande traversée de Federico Polo Devoto et Marie-Laure Ciboulet.
Capone était quasiment postmoderne avant que le postmodernisme existe. Dans le monde postmoderne, la gloire précède en quelque sorte la cause de la célébrité. La célébrité devient un but en soi. Les gens sont connus avant même d'avoir fait quoi que ce soit pour eux. Je crois que d'une certaine façon, Capone est un modèle parce qu'il avait compris ça.
Ce qui m'a toujours surpris à propos de Capone, c'est qu'on n'a jamais essayé de le replacer dans un contexte historique. C'est comme s'il apparaissait un beau jour, tel Godzilla, sillonnait tout Chicago comme Godzilla, et finalement, se faisait capturer et disparaissait.
Épisode 1, Scarface en son royaume.
Septembre 1930. Deux mois avec les bandits de Chicago, le plus sensationnel des reportages sur Al Capone. Notre collaborateur, Joe London, est rentré hier d'Amérique à bord du paquebot France. Il nous rapporte une enquête sensationnelle, une enquête vécue sur les aventures et les mœurs d'Al Capone et des bandits de Chicago. Il a passé deux mois sur les bords du lac Michigan, se mêlant à la vie des redoutables gangsters, recueillant leurs confidences, assistant à la lutte menée contre eux par la police officielle et aussi par des organisations privées pourvues de moyens matériels considérables.
Nous, en Amérique, on n'a pas de royauté, mais Capone est ce qui se rapproche le plus d'un roi, il n'y a aucun doute.
Jojo Galvan Mora, historien de Cicero.
À commencer par la manière dont il s'habillait. Il était réputé pour porter des costumes taillés sur mesure. Jamais de confection. Et quel costume !
Nous sommes prêts.
Faut savoir être à la mode.
Ouais, on est des hommes d'affaires. Faut avoir la classe.
C'est une coupe cintrée. C'est très à la mode.
Vous savez, à l'époque, les gens portaient des couleurs ternes, des marrons, des noirs, des basiques. Mais ce type était célèbre pour se pointer toujours dans des costumes aux couleurs vives, éclatantes. Des choses qu'on pourrait voir aujourd'hui, mais dans les années 20, c'était exceptionnel.
Ça veut dire que ça coûte un paquet.
Les épaules larges accentuent le côté très masculin de la silhouette. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ?
Nos femmes vont être folles.
Al Capone was extremely visible.
Arthur Lurigio, psychologue et professeur de criminologie.
And he dressed in the most flamboyantly
Al Capone était extrêmement visible et il portait des costumes aux couleurs flamboyantes, mauve, jaune et vert, avec différentes combinaisons. Sa cravate était assortie à son mouchoir, à ses chaussettes et à ses chaussures. Il portait toujours un fedora blanc et des bijoux voyants et chers. À partir du moment où il est devenu le chef en 1925, il s'est retrouvé sur le devant de la scène. Il était le patron du gang de Chicago. À l'époque, on l'appelait le gang de Capone.
De notre envoyé spécial à Chicago. Soyez le bienvenu, monsieur. En prononçant ces mots, le docteur Hermann Bundesen, coroner de Chicago, me serre la main. Puis, dans un geste d'une familiarité inattendue, il me tâte le ventre et s'écrie « Et votre gilet blindé, vous n'en avez pas ? Quoi ? Vous êtes venu à Chicago sans gilet blindé ? C'est incroyable ! On ne vous a donc pas donné de conseils à New York ? Où les avez-vous négligés ? Pas de gilet blindé. Fancy that ! Quelle idée !
À tout voyageur s'embarquant pour Chicago, les New-Yorkais lancent habituellement en guise d'adieu cette phrase « Don't forget your steel vest !»« N'oubliez pas votre gilet blindé !» Il y a des gens, à New York et ailleurs, qui préféreraient renoncer à une affaire profitable plutôt que de venir la traiter dans le loop. Le quartier des affaires de Chicago, ainsi dénommé à cause de l'entrecroisement des lignes du métro aérien, dont la boucle le délimite très exactement. Il est vrai que dans ce loop, bruyant, mais pacifique cité des affaires, se sont déroulés trop souvent, au milieu de la foule, les drames les plus inattendus. Des drames dans lesquels seuls parlaient les revolvers, les mitrailleuses et les bombes, tandis que spectateurs malgré eux, les businessmen, les dactylos et les clercs s'enfuyaient, éperdus.
Al Capone aimait le jeu. Il aimait les courses de chevaux et on l'y voyait régulièrement. Mais je crois que c'est surtout au match de baseball qu'il se déplaçait en grande pompe. Il avait toujours les meilleures places dans le stade. À tel point que parfois, ça retenait davantage l'attention des médias que le match. Parce que la presse essayait de prendre des photos d'Al Capone en public. Je pense qu'on a ces archives d'Al Capone en public à un match de baseball ou à d'autres événements. Parce qu'on savait que c'était un personnage très important. Il était entouré d'un tel mythe que sa simple présence, le fait de le voir en public, créait toute une effervescence. Les gens se disaient, il est donc bien réel, il existe vraiment. Il voulait être vu de tous.
Et
il y avait aussi un autre élément. Il était assez grand. Il faisait presque 1m80. Il était musclé et à 20 ans, il pesait entre 100 et 115 kilos. Il était extrêmement agile, léger, comme un danseur. Il était d'ailleurs assez bon en boxe. Il s'entraînait avec des boxeurs poids lourds. Et on disait qu'il frappait fort. Il avait un très bon jeu de jambes et une très très bonne défense.
Les biographes de l'époque ou les journalistes font des espèces de contorsions pour dire que d'un côté, c'est quelqu'un qui est assez gros et effectivement imposant.
Benoît Tadier, professeur de littérature américaine.
Et rond, un peu comme le bon capitaliste, fumeur de cigares, etc. ou autre. Et en même temps que c'est un homme puissant et costaud, qui se déplace avec une agilité de panthère ou de tigre, suivant les cas. Donc on a une espèce de contradiction. On se dit comment est-ce qu'un type pratiquement obèse et suave et rondouillère, qui fume des gros cigares, peut en même temps se déplacer comme un boxeur poids-plume, quoi. Mais finalement, c'est cette contradiction qui, à mon avis, révèle aussi les deux facettes du personnage. Donc je crois que c'est cette ce paradoxe aussi qui le rend totalement fascinant.
Brad Schwartz, historien et auteur d'un ouvrage consacré à Al Capone et Eliot Ness.
Il dépensait son argent sans compter, parce qu'il en rentrait tout le temps, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il affichait sa richesse. Il laissait des pourboires énormes. Il distribuait des billets de $100 aux enfants pour qu'ils s'achètent des glaces. D'après certaines histoires, il se faisait conduire en banlieue et lançait des pièces $1 aux enfants par la fenêtre. Donc oui, il adorait être considéré comme le roi de Chicago.
Quand
je vous dis qu'il était haut en couleur, ce n'est pas de l'exagération. Il fumait toujours les meilleurs cigares, importés et roulés à la main. Il n'y avait aucune boisson, aucun plat qu'il se refusait. Si vous désiriez quelque chose, il vous le procurait. Et bien que marié, il était connu pour être toujours accompagné par des femmes, entouré de jolies femmes. À une époque où les gens luttaient contre la pauvreté, et pour certains, mouraient de faim, lui vivait comme un roi. Il dépensait probablement tout l'argent qu'il avait.
Septembre 1930, Chicago, à la recherche de l'introuvable. Je cherche Al Capone. Me voici au Lexington Hotel, qui fut longtemps son QG. J'en sors bredouille. Même démarche vaine au 7244 de la Prairie Avenue, où il eut longtemps une résidence, tout en étant domicilié à Cicero. Il me faut, ici, faire allusion à l'affaire Bonneau. Supposez que, pendant que la sûreté parisienne recherchait le chef de la sinistre bande, un journaliste eût essayé de le joindre par ses propres moyens et qu'il eût demandé tout uniment, en divers endroits, « Avez-vous vu Bonneau ?» Il est à présumer qu'on l'eût pris pour un fou, un mauvais plaisant ou un dangereux malfaiteur. Ici, personne ne s'étonne de ma question. On me répond, le plus aimablement du monde, « Al Capone ?»« Ah non, monsieur,
Nous ne l'avons pas vu ces temps-ci. Mais c'est bien autre chose lorsque je vais à Cicero, où Capone a presque toujours vécu depuis son arrivée à Chicago. Ne vous avisez pas de critiquer devant les habitants de Cicero les agissements du bandit Al Capone. Ils nourrissent pour lui une affection sans borne. C'est ahurissant, mais c'est ainsi. Les édiles de Cicero sont pour la plupart des créatures d'Al Capone, ce qui ne les empêcha pas d'être personnellement des gens fort honorables. Al Capone est à Cicero une manière de mécène dont on cite les traits de générosité innombrable. Il adore les enfants, qui le lui rendent bien. Il les embrasse, leur offre des jouets, sourit aux mamans, tend à tous une main si affectueuse qu'on oublie qu'elle est bien souvent rougie de sang.
Richard Lindbergh, historien spécialiste du crime organisé à Chicago.
Alors nous sommes maintenant au cœur de l'ancien Levy, dans le quartier du South Side. C'est ici que se trouvait l'ancien Metropole Hotel. C'était un hôtel magnifique, construit par le même architecte que celui qui a fait le Lexington. Capone y a eu ses bureaux pendant 3 ans, de 1925 à 1928. Puis il a déménagé au Lexington. Ces bâtiments, ces hôtels étaient très élégants, ornés de chandeliers en cristal scintillant, de sol en marbre ou revêtus de précieux tapis d'Orient. Et les chambres étaient très luxueuses. À l'époque, les gens descendaient ici et allaient dans le centre pour affaires. Ce quartier était beaucoup plus à la mode qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est difficile de se représenter les soirées qu'il organisait quand il recevait 200 personnes à Chicago. Il aimait boire, il aimait tout ce qui allait avec être dans la lumière. Il couchait avec des prostituées. C'était ce qu'on appelle un épicurien.
There's a story about Fats Waller. Il y a une histoire à propos de Fats Waller tout à fait extraordinaire. Fats Waller est un célèbre pianiste de New York et c'est son fils Maurice qui a raconté l'histoire. Son père était venu donner plusieurs concerts à Chicago où il faisait salle comble, il attirait les foules. Et un soir, il termine son spectacle en centre-ville et en sortant de la salle de concert, il sent un pistolet dans son dos. Deux hommes à ses côtés lui disent de continuer à marcher et l'embarquent dans une limousine. Fats ne pose aucune question. Tout ce dont il se souvient, c'est qu'on a demandé au chauffeur d'aller à Cicero. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à Cicero et ils le font pénétrer dans une salle de spectacle. Il ne peut pas dire où c'est. Il sait simplement que c'est dans cette ville de Cicero dont il n'a jamais entendu parler. Quand ils le font rentrer, il découvre une fête qui bat son plein. Un piano est installé, il y amène et lui demande de jouer. Et c'est tout. Pour chaque chanson qu'il joue, il est payé $100, ce qui est une somme considérable à l'époque. Au bout de quelques chansons, ils lui disent « Y a à boire et à manger, sers-toi autant que tu veux ». L'histoire telle qu'il la raconte, c'est qu'il a bu beaucoup de champagne et mangé beaucoup de fruits de mer cette nuit-là. Et à un certain moment, au cours de la soirée, il a réalisé que c'était la fête d'anniversaire d'Al Capone. Il était le cadeau d'anniversaire que ces hommes offraient à Al Capone. Ils ont kidnappé Fats Waller. Le plus fou, c'est que cette soirée s'est prolongée. Apparemment, si on en croit Maurice Watts, la fête a duré 3 jours. 3 jours où il a joué, mangé et bu. Je crois que c'est probablement le meilleur exemple. Ça montre à quel point Al Capone prenait le jazz au sérieux.
Capone loved jazz. Capone adorait le jazz. Il en aimait le rythme. Mais il s'est lié d'amitié avec ces artistes de jazz afro-américains. De bien des manières, c'était un homme en avant sur son temps en termes de relations interraciales.
Archivina, Nuit magnétique, 1979.
J'ai rencontré Al Capone à Chicago. Je lui ai serré la main et j'étais très fier de serrer la main au seigneur des gangs. D'ailleurs, la plupart des clubs où j'ai joué à New York étaient tenus par des gangsters. Mais je les aimais bien, car ils étaient tous des protecteurs des artistes. Ils aimaient tous la musique. Et moi, je trouve que c'était mes meilleurs patrons. C'était vraiment des types fantastiques.
Richard Lindbergh, donc là maintenant, ce ne sont plus les bureaux de Capone, mais nous sommes devant une maison qui était spécialement consacrée aux soirées à Cicero.
Yes, this is a building at 1600 South Austin Avenue in the Cicero area of Chicago.
Oui. Alors voilà, nous sommes au 1600 South Austin Avenue à Cicero, dans la banlieue de Chicago. Ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment a été construit par Al Capone en 1927 pour servir officiellement de lieu pour ses fêtes. La légende veut qu'en dessous, dans le sous-sol, des tunnels aient été creusés pour permettre de s'échapper en toute sécurité dans le cas où un raid de la police surviendrait. Ce qui était assez rare, puisque Capone avait la police dans sa poche, il avait pu l'acheter. Capone avait une suite au deuxième étage. C'était là que tout se passait. Alcool, drogue, prostitution et bas sexuels. On était alors à bonne distance du 7244 South Prairie Avenue, loin du regard de sa femme et de sa mère, de son fils et de sa famille. Si ces murs pouvaient parler, ils nous raconteraient, je crois, une histoire très intéressante.
Il y a cette espèce de disjonction incroyable entre la violence sanguinaire de ses activités d'un côté, et puis, ce qui est d'ailleurs figuré aussi par les différents lieux qu'il occupe. La maison n'est pas au même endroit que le bureau, etc. Capone, lui, il vivait avec sa mère, sa femme, son fils, ses frères dans une maison très soudée. On le voyait arriver avec un plat de spaghettis à la main et un tablier rose sur lui. Il était d'une suavité totale.
Alors, nous sommes ici devant la maison de Capone, dans le quartier du Grand Crossing à Chicago, au 7244 South Prairie Avenue. C'est un quartier résidentiel du South Side. Dans les années 20, quand Al Capone habitait ce bâtiment de trois étages, ce n'était pas un quartier riche, mais plutôt pour la classe moyenne. C'est un bâtiment de briques rouges, de trois étages, avec deux salles de bain, du parquet au sol et six chambres à coucher. Ce qui est remarquable quand on regarde cette maison, ce sont les fenêtres du rez-de-chaussée qui ont des barreaux. Je pense qu'ils ont été installés par la famille Capone par mesure de sécurité. À différentes périodes, son frère Ralph a habité là, ainsi que sa plus jeune sœur, Mafalda, avec sa mère. With her mother.
He wasn't just a criminal in his private life. He was a normal, a nice gentleman.
Richard Larsen, auteur d'un documentaire sur les bons côtés de Capone.
Ce n'était pas qu'un criminel. Dans sa vie privée, c'était un homme normal, un gentleman. On pouvait établir un contact simple avec lui, sans peur d'être assassiné. On peut dire que Capone avait une autre facette dans sa vie personnelle. Ce n'était pas seulement le Capone qui sort de chez lui, chaque matin, avec une mitraillette à la main, et tire sur tout ce qui bouge, juste pour s'éclater. Capone essayait vraiment d'être aimable et gentil avec tous ceux qu'il rencontrait dans la rue. Et il pouvait se le permettre. D'ailleurs, il a financé des soupes populaires. On y distribuait des repas gratuits aux sans-abri et aux chômeurs, et il y avait beaucoup de chômeurs à Chicago. Il a donc nourri des milliers de personnes. Certains ont réagi en déclarant qu'il faisait cela pour gagner la sympathie du public, pour faire croire aux gens qu'il était un type sympa. En fait, il faisait ça avec le cœur, parce qu'il avait lui-même grandi dans la pauvreté.
Derdre Capone, petite nièce d'Al Capone.
Pour moi, c'était mon oncle. Je le voyais d'une manière tout à fait différente des autres gens. Il était gentil, aimant. Il adorait les enfants. Et les animaux, en particulier les éléphants. Il adorait les éléphants. Moi aussi, d'ailleurs. C'était quelqu'un de bien. Il venait d'une très bonne famille. Il m'a appris à nager, à faire du vélo. Je jouais avec lui tout le temps. Il jouait avec moi à Toc Toc qui est là, ce genre de choses. Oui, on était une famille. Il m'a appris à jouer au craps, au poker. On faisait des tas de choses ensemble.
In 1930, Al Capone was coming home from a year and a half jail sentence he was serving.
En 1930, Al Capone sortait d'un an et demi de prison à Philadelphie. Il avait été arrêté pour port d'armes. Son retour à la maison en 1930 devait être un grand événement. Il devait y avoir une grande fête de bienvenue. La mère d'Al Capone allait lui cuisiner son plat préféré, des spaghettis à la dinde, et tout était organisé pour la soirée. Mais il y avait un problème. De chaque côté de la maison et à l'arrière du bâtiment, 25 policiers étaient postés qui attendaient qu'il rentre chez lui. Bon, ils ne voulaient pas l'arrêter, mais seulement l'emmener au poste pour l'interroger, pour savoir où il en était depuis son arrestation et voir s'il pouvait lui soutirer des informations. Donc, Teresa, sa mère, qui avait planifié un grand dîner de bienvenue pour son retour avec toute la famille, était déçue. Et Al ne s'est jamais manifesté. Le dîner était prêt et toujours pas de Al. Au lieu de quoi, il est allé à son bureau au Lexington où il est resté caché quelques jours jusqu'à ce que la police finisse par s'en aller. Toutes les années où Capone vivait dans ce bâtiment, il y avait en permanence des voitures de police stationnées dans la rue. Certaines étaient clairement identifiables, d'autres étaient banalisées, avec des détectives en civil. Mais il gardait toujours le bâtiment sous surveillance.
Al Capone used to come to Chicago Heights, where I grew up.
Lou Corsino, professeur de sociologie.
Chicago Heights is about 30 miles south of Chicago.
Al Capone venait souvent à Chicago Heights, là où j'ai grandi. C'était à environ 15 km au sud de Chicago. D'un certain côté, Chicago Heights était comme une oasis pour Capone. Très peu de journalistes y allaient. C'est pour ça qu'il y venait. Il y venait d'ailleurs assez régulièrement pour profiter d'une espèce d'enclave italienne, loin des journalistes. Parfois, il venait chez ma grand-mère. Elle devait alors préparer un repas pour lui et ses acolytes. Capone s'asseyait, il s'installait là. Et d'après elle, il était peu bavard. Le contraire de ce qu'on entend ou de ce qu'on peut lire sur lui. Il était plutôt du style réservé. Il restait là, assis, sans parler beaucoup. On remarquait à peine sa présence. Et il passait là tout l'après-midi. D'autres membres de ma famille habitent à Lansing, dans le Michigan. Capone s'y rendait pour diverses raisons, surtout pour échapper aux poursuites judiciaires. Là encore, les gens savaient que c'était un gangster, mais ils le voyaient surtout comme quelqu'un qui aime l'opéra, qui aime faire le clown et passer du temps en famille. C'est une toute autre version de Capone. Je ne voudrais pas l'idéaliser, mais il avait différentes facettes qui méritent d'être explorées si l'on veut comprendre l'individu, pas seulement le gangster.
People tend to romanticize, and this is what bothers me the most. People will dress up.
Les gens ont tendance à l'idéaliser. C'est ce qui me contrarie le plus. Ils s'habillent comme des gangsters, ils jouent avec des mitraillettes en toc. Mais l'activité de Capone était très concrète et a eu un coût humain très réel. C'est quelqu'un qui a modernisé la prostitution, c'est-à-dire qu'il a développé le trafic d'êtres humains. En un sens, il a asservi les femmes davantage en les forçant à travailler au sein de ses activités. Il a contribué à accroître les addictions, que ce soit au jeu, qu'il a rendu accessible à plus de gens, ou à l'alcool. Je garde cela constamment à l'esprit. C'est ce que je souligne toujours quand les gens commencent à se montrer nostalgiques au sujet de Capone. Cet homme n'a pas seulement abîmé de nombreuses vies, il a détruit des vies.
Al Capone was likely a psychopath.
Al Capone était sans doute un psychopathe. Il avait un côté grandiose, narcissique, charmant, mais il était dépourvu de conscience, d'empathie pour les autres. Or, la psychopathie, ce n'est pas tout ou rien. Il y a différents degrés. Je crois que c'est un de ces psychopathes qui a le sens du devoir envers sa famille et ses amis. Les gens qui l'ont rencontré le décrivent généralement comme quelqu'un d'affable, de charmant et qui s'exprime bien. Les tests de QI réalisés quand il était assez jeune révèlent une intelligence au-dessus de la moyenne. En lisant les transcriptions de ses interviews avec les médias, ainsi que ses échanges avec les juges et les avocats pendant les procès, j'en ai déduit qu'il avait un QI entre 105 et 110.
One of the things that comes up quite a bit when people talk about meeting him socially.
L'une des choses qui revient souvent quand on entend parler ceux qui l'ont rencontré en société, c'est leur difficulté à croire qu'il a commis les actes qui lui sont reprochés et que nous savons qu'il a commis. Il pouvait sembler charmant, mais il avait un caractère terrifiant. Sous la pression, il pouvait se transformer très vite en un personnage à fuir à tout prix. Je crois qu'il avait vraiment besoin d'être aimé, d'être admiré. Parfois, les gens recherchent le pouvoir. Je ne pense pas que c'était son cas. Je pense qu'il cherchait à être admiré, respecté et perçu comme un capitaine d'industrie, comme on dit dans notre pays. Particulièrement pendant les années 20, les années folles, cet âge d'or du capitalisme. Il pensait qu'il pourrait être un autre Henry Ford dans le domaine du crime. Et pendant un temps, ce fut le cas. Les gens le voyaient comme ça, écrivaient sur son compte dans ce sens-là. Le fait même qu'il engageait des gens pour commettre des meurtres à sa place était vu comme quelque chose d'admirable, parce qu'il améliorait l'art du crime en y apportant plus de professionnalisme.
Prostituée,
danseur,
maître d'hôtel,
videur,
assistant manager,
croupier,
serveur,
chef,
garçon d'écurie,
entraîneur,
vétérinaire,
chanteur.
Al Capone, guns don't argue.
It's estimated a good conservative.
On estime, en restant dans une fourchette raisonnable, que lorsqu'il était au sommet de son empire, Capone employait entre 300 et 400 personnes. Ça allait du simple soldat au sous-chef et au lieutenant. En plus de ces 300 personnes, il y avait les associés, ces gens qui n'étaient pas membres du crime organisé, mais qui géraient leurs affaires en partenariat avec le gang de Capone. Et encore aujourd'hui, on les appelle des associés, non pas des gangsters. Ce sont juste des hommes d'affaires qui vont coopérer avec Capone en lui fournissant des armes, de l'alcool.
Guetteur,
opérateur de brasserie et de distillerie,
patron de saloon,
chauffeur,
collecteur,
garagiste,
espion,
garde du corps,
tireur,
homme en charge des mises sur écoute,
conseiller juridique,
contact politique,
accompagnateur personnel,
valet,
chef,
chauffeur,
serveur,
barbier,
secrétaire,
docteur.
Son organisation avait un conseil d'administration constitué de 25 membres, divisé en deux groupes. L'un chargé des revenus,
prostitution, 10 millions par an, jeu, 25 millions par an, racket, 10 millions par an,
trafic d'alcool et de bière, 60 millions par an.
L'autre de la sécurité. Tout en bas, il y avait un certain nombre de soldats, de factotums qui exécutaient toutes les corvées, quelles qu'elles soient. Dans le conseil d'administration, il y avait son frère Ralph Capone.
Ralph Capone, alias Bottle, bouteille. Frère aîné d'Al Capone, responsable de la distribution de bière et de la ville de Cicero.
Son garde du corps, Frank Rio.
Frank Rio, tueur et garde du corps de Capone.
Son comptable et homme de confiance auquel il était très attaché, Jack Greasy Thumb Guzik, qui était juif.
Jack Crazy Thumb, gras du pouce, Guzik, directeur commercial et statisticien en chef. Il est aussi le trésorier chargé de soudoyer les policiers. Il possède une maison close dans le South Side.
Frank Nitti, plus âgé que Capone, de 15 ans. Ils se connaissaient vraisemblablement depuis New York où ils avaient grandi ensemble dans le même quartier.
Frank Nitti, ou Nito de son vrai nom. Trésorier et deuxième vice-président. Homme respecté et conseiller influent, il est responsable de la collecte de fonds et a probablement été aussi en charge de la distribution d'alcool, successeur de Capone.
Machine Gun Jack McGurn,
Jack Machine Gun McGurn, né en Italie, était aussi un conseiller proche et un homme de main, membre du conseil d'administration.
Jack Machine Gun, la sulfateuse McGurn, de son vrai nom Vincenzo Ghibaldi, garde du corps et tueur à gages numéro 1, responsable présumé du massacre de la Saint-Valentin en février 1929.
Tony Accardo, who was the longest serving crime boss.
C'est le chef de gang qui a travaillé le plus longtemps de toute l'histoire du crime organisé. Dans les années 1940, il est devenu le chef principal, puis un conseiller respecté et apprécié jusqu'à sa mort en 1990. Quand il était jeune, c'était un homme de main. Al Capone lui avait donné le surnom de Joe Batters, en référence au baseball. Personne ne l'appelait Tony Accardo après cela. Tout le monde l'appelait Joe, y compris sa femme, parce qu'il tabassait les ennemis de Capone à mort avec sa batte de baseball. La famille de Capone venait de Naples, à la différence des membres du crime organisé de New York, connus sous le nom de Cosa Nostra. Au début, c'était des Siciliens qui respectaient les règles ancestrales de la mafia. Mais la mafia n'a jamais été transposée telle qu'elle de Sicile en Amérique. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les Américains d'origine italienne ou sicilienne avaient organisé le crime à leur façon. Sauf qu'à New York, ils avaient conservé un bon nombre de traditions qui ne sont jamais arrivées jusqu'à Chicago. Al Capone se présentait comme un Américain d'origine italienne. Il y mettait un point d'honneur. Il était américanisé dans sa manière de mener ses affaires criminelles. Il les gérait comme on gère une entreprise. Il disait
« Je suis prêt à travailler avec tous ceux qui veulent faire de l'argent avec moi. »
It's worth noting that people always talk about Capone being at the head of a criminal empire. He's a Hohenzollern with a Tommy gun.
Vous remarquerez qu'on parle toujours de Capone comme étant à la tête d'un empire criminel. C'est un roi de Prusse armé d'un pistolet automatique. En scrutant le personnage, vous y trouverez un peu de Louis XIV, de Bismarck et des Habsbourg. Des gens qui ont essayé de centraliser le pouvoir, l'autorité, et qui ont eu affaire à différents groupes ethniques. En même temps, il existe différentes figures dans l'histoire américaine, à cette époque ou auparavant, qui font la même chose que Capone sans tuer autant de gens. Ceux qu'on appelle les barons voleurs, des gens comme Carnegie ou Rockefeller, ils sont dans un autre secteur que l'alcool, mais ils essayent de centraliser le pouvoir et de conquérir le marché. Carnegie avec l'acier, Rockefeller avec le pétrole. Donc, véritablement, Capone est tout à la fois un baron voleur et un Habsbourg. Il y a une autre chose intéressante à son sujet. Ce New-Yorkais essaye d'imprimer sa marque sur Chicago. Chicago était différente de New York, car il y avait de nombreux groupes ethniques très variés. Un mélange d'Allemands, d'Irlandais, de Lituaniens, Polonais, Tchèques, Slovaques, Serbes, Croates, Norvégiens,
Hongriens, Suédois, Norvégiens, Danes, et a few Luxembourgers. And this happens for
Il y avait plusieurs raisons à cela. L'une des plus importantes étant que les hommes d'affaires de Chicago voulaient maintenir les travailleurs divisés. Si tout le monde dans l'usine appartient au même groupe ethnique, tous parlent la même langue et peuvent communiquer sur leur mécontentement par rapport à leurs conditions de travail. Mais si des Polonais travaillent à côté de Tchèques ou de Lituaniens, il y a des problèmes de communication et même des frictions entre les groupes ethniques et moins de chances que les travailleurs s'organisent en syndicats. Donc Capone traite avec tous ces différents groupes, dont plusieurs ont leur propre gang et leur chef. Et il essaye, à partir de tout cela, de construire une sorte d'empire. C'est en cela qu'il est un Habsbourg.
One of the important questions I think to consider is to
Il y a une question importante, il me semble, quand on parle du crime organisé. Qu'est-ce qu'on entend par organisé? L'une des questions qui revient souvent est de savoir s'il s'agissait d'une organisation verticale ou horizontale. Personnellement, je pense que c'était les deux. Un théoricien a un jour expliqué comment le crime organisé consiste en deux éléments différents, ce qu'il appelle l'organisation du pouvoir et l'organisation de l'entreprise. L'organisation du pouvoir est verticale. Il y a quelqu'un au sommet, avec des lieutenants en dessous, et puis des gens qui exécutent les ordres. En ce sens, en termes de pouvoir, c'est vraiment vertical. Un tel disait ce qu'il fallait faire à tel autre, et ainsi de suite. C'était vertical. Mais l'entreprise, où l'on gagne de l'argent par la prostitution ou le jeu, c'était plus horizontal, parce qu'il fallait s'adapter au marché. Au niveau de l'entreprise, il ne pouvait pas simplement s'imposer. Quand on vend sur le marché, on ne peut pas imposer les produits ni forcer les gens à acheter. Il faut répondre à la demande, être plus flexible, plus horizontal. En un sens, les organisations criminelles les mieux organisées, qui réussissent le mieux, sont celles qui combinent la structure verticale de l'organisation du pouvoir et la structure horizontale de l'organisation de l'entreprise. Et c'est ce que Capone a réussi à faire un certain temps pendant son règne. He was able to do that.
The amazing thing about Capone is that he took a look at all the changes taking place in American society.
Ce qui est incroyable à propos de Capone, c'est qu'il a observé tous les changements à l'œuvre dans la société américaine des années 20 et il les a utilisés pour mener ses affaires avec un réel sens de l'initiative.
Make sure that beer orders were filled. He used the telegraph to telegram money.
Il se servait du téléphone pour négocier, pour s'assurer que les commandes de bière étaient honorées. Il se servait du télégraphe pour envoyer de l'argent, en particulier chez lui à Miami. Il utilisait des camions pour faire acheminer la bière et l'alcool à ses clients. Il a su profiter des gens qui livraient de l'alcool, du whisky par bateau depuis le Canada.
Via motorboat, from Canada to the American side, and then from motorboat to truck to Chicago.
Il a réussi à faire tout ça. Évidemment, il ne s'agit pas d'alimenter les clichés, mais il a aussi utilisé la mitraillette, qui avait été inventée non pas pour tuer des gangsters, mais pour tuer des Allemands sur le front de l'Ouest. Donc oui, il a été capable d'utiliser une technologie remarquable à des fins très particulières, et bien qu'il légale, très lucrative.
Le gangster d'autrefois, il avait une casquette à carreaux, il avait un surin dans la poche. Maintenant, on a une technologie. Il y a la mitraillette et l'automobile. Ce sont vraiment les deux grands symboles mythologiques presque du nouveau gangster par rapport au gangster territorial qui, lui, était à pied et qui avait un couteau.
19 septembre 1930, de notre envoyé spécial à Chicago. Si je trouve à Cicero la trace de la surprenante sympathie qu'inspire cet ennemi public, je ne le découvre pas personnellement. Je comprends pourtant que les bandits de Chicago, groupés en organisations puissantes, formant plusieurs États dans l'État d'Illinois, disposant de moyens financiers considérables, s'appuyant sur des concours politiques, judiciaires et policiers qui leur assurent une déconcertante impunité, ont réalisé, selon la forte expression de M. Charles Hughes, chef suprême de la justice américaine, la capitalisation du crime, c'est-à-dire l'exploitation rationnelle d'une industrie et d'un commerce énorme, illicite, immoraux, établis en marge des règles qui régissent les sociétés civilisées. Un matin arriva enfin, où un discret messager vint me prévenir qu'Al Capone consentait à me voir.
Il a pris le pouvoir, finalement, et il impose sa loi.
Hélène Arter, historienne, spécialiste de l'Amérique du Nord et autrice des Incorruptibles contre Al Capone.
Il a énormément de gens qui lui sont redevables et qui lui doivent leur survie du quotidien. Alors, au sein des gens qui travaillent pour lui, mais aussi au sein d'un certain nombre de responsables publics qui vont toucher de l'argent de sa part, pour fermer les yeux. Donc il a tout un réseau de gens qui travaillent pour lui de manière plus ou moins directe.
On a dû faire une descente. Ils ont un nouveau capitaine de police qui ne veut pas jouer le jeu.
Qu'est-ce qu'il demande ?
Oh, c'est un coriace. On pensait lui donner $100 par semaine, mais il dit que si on veut opérer dans son secteur, il faudra tripler la somme.
300 ? Ouais, ben, il est pris monde cette année. Bon, inscris-moi son nom. Je vais le faire déplacer dans un coin perdu.
Si de cette façon il est réélu, un demi-million de la caisse de la compagnie Thompson, c'est pas trop cher. Et s'il ne passe pas, je mettrai Cermak dans le bureau du maire et ça nous coûtera 20 millions par an.
Ah ben, c'est du gaspillage. Nous avons acheté un maire, il perd, on le remplace par un autre maire.
Dans cette ville, les autorités politiques et les forces de l'ordre ont en quelque sorte grandi main dans la main avec le crime. Il n'y a jamais eu à Chicago une séparation très nette entre les autorités et le crime. Vous savez, dans cette ville, les choses se font grâce à la corruption, au jeu d'influence, par relation. Capone avait acheté le maire et un ou deux sénateurs des États-Unis, des conseillers municipaux et la plupart des policiers. Car les États-Unis ont fait une énorme erreur avec la prohibition. Interdire l'alcool alors que la majorité du pays voulait y avoir accès absolument, était prête à payer cela très cher. Ça ne pouvait que provoquer un afflux d'argent dans le crime organisé, utilisé entre autres pour corrompre les gens. Vous savez, ça coûte à peu près $3 de produire un tonneau de bière. Or, ils le vendaient $55, mais il y avait $20 pour les pots de vin. Parce qu'il fallait vraiment s'assurer que les camions qui transportaient la bière pourraient passer le loop, où nous nous trouvons actuellement, sans se faire arrêter par la police. À une certaine époque, c'était possible. Without the police pulling them over, which at a certain point they could do.
Dans les années 20, à Chicago, nous avons eu un maire très corrompu. Il avait une réputation déplorable. Il s'appelait William Hale Thompson. Tout le monde l'appelait Big Bill. Il a été le dernier maire républicain de Chicago.
Thompson fait partie de ces maires qui sont devenus un peu iconiques dans les années 20, hein, et dans l'histoire des États-Unis, puisqu'il renvoie à cette série de maires, on en verra à New York, on en verra à Atlantic City, on en voit ailleurs, hein, qui sont des maires profondément corrompus.
Romain Huret, historien spécialiste de l'histoire des États-Unis.
Qui vont parfaitement utiliser les vagues migratoires et qui vont comprendre qu'il est possible... En utilisant bien cette répartition ethnique des communautés migratoires, de créer des clientèles extrêmement fortes au point de vue politique, en achetant, je mets des guillemets, mais il faut parfois Thompson ne mettait pas de guillemets, en achetant les voix hein, et en utilisant l'ensemble de la mécanique migratoire vers les États-Unis. Hein. On ne migre jamais de manière aléatoire. Les migrations sont parfaitement organisées vers les États-Unis et les migrants sont accueillis hein, par la communauté ethnique et à l'intérieur de la communauté ethnique par ce qu'on appelle un boss, hein, qui est le chef de la communauté et qui va, dès l'arrivée de la famille ou du célibataire qui s'installe aux États-Unis, va trouver emploi, logement... de manière temporaire et même parfois à l'origine de la migration, à financer la migration vers les États-Unis. Et donc Thompson et d'autres maires, hein, c'est pas le seul, hein, aux États-Unis, à New York ou à la Nouvelle-Orléans ou à Atlantic City, on a les mêmes profils, utilisent parfaitement cette structuration en quelque sorte des communautés immigrantes en comprenant que si on parvient à s'entendre avec les boss, eh ben on peut avoir des clientèles électorales. Hein, qui permettent élection, réélection, et on voit apparaître des formes de corruption qui sont omniprésentes hein, dans la vie politique des États-Unis et la vie politique urbaine. Hein, et Al Capone et les autres criminels organisés vont parfaitement comprendre que la vie municipale est particulièrement corrompue, et donc il sera assez facile de faire fructifier leur commerce illégal sans être trop inquiété par la justice.
Fabrice Risoli, on évoque souvent Al Capone comme un gangster, mais en réalité, quand on voit la situation à Chicago avec la corruption, quand on voit le mode de fonctionnement d'Al Capone, est-ce qu'Al Capone, au fond, ne serait pas plutôt un mafieux ? Et d'ailleurs, comment pourrait-on définir ce qu'est la mafia ?
À l'intérieur du crime organisé, vous avez des organisations mafieuses, des mafias. On a deux définitions. Soit on prend l'article italien unique au monde du délit d'association mafieuse, plusieurs personnes conditionnent un territoire par la violence, pas de mafia, par la loi du silence, hein, si tu parles, je te tue, pour faire des activités légales. Alors là, c'est capital, légal. Parce qu'évidemment, ils font déjà des activités légales. Mais dans la définition juridique de la mafia italienne, la force de la mafia, c'est d'être présent dans l'économie légale pour donner du boulot, pour blanchir, pour contrôler le territoire, pour plein de raisons, pour avoir accès au crédit bancaire, par exemple. ou vous donner une définition un peu plus exigeante, de type sociologique, géopolitique. Ben, c'est quand même plusieurs personnes qui utilisent la violence, le consensus social, donner un boulot. Bon, dans les mafias italiennes, une espèce d'ordre supérieur, je ne m'appesanterai pas là-dessus, mais évidemment, accumulant du capital illégalement, présent dans l'économie légale, et ayant un fort lien avec le monde politique. Al Capone apparaît comme le paradigme du mafieux, et je rappelle, alors pourquoi, hein, parce qu'il utilise la violence collectivement, parce qu'il corrompt politiques, policiers, journalistes.
Pour moi, c'est plus un gangster.
Clotilde Champerrache, économiste et spécialiste de la mafia et de l'économie illicite.
Très américain dans sa façon de faire et qui a eu des contacts avec la mafia d'origine sicilienne implantée aux États-Unis, mais sans en adopter forcément tous les codes. Il va utiliser la violence de façon tout à fait déraisonnable. Or ça, les organisations criminelles qui durent longtemps, typiquement les mafias, c'est pas qu'elles sont non-violentes, loin de là, mais elles ont un usage raisonné de la violence, parce que la violence, ça attire la répression, ça attire aussi la contestation de la part de la population, qui parfois a des victimes collatérales. Donc ça n'est pas forcément une bonne chose que d'utiliser trop la violence lorsqu'on est un criminel. Et il va beaucoup capter la lumière, mais finalement il a une carrière très brève, une carrière très dans l'ostentation du gangster, avec cette richesse affichée, il convoque la presse pour qu'on vienne le photographier, le filmer, il aime être sur le devant de la scène.
Al Capone ne fait pas de la discrétion sa qualité première, au contraire, il est omniprésent, il fait de sa présence dans l'espace public un marqueur essentiel, un élément de relation publique, pourrait-on même dire. Et c'est sans doute lié à ce que... au mimétisme très fort chez Capone de respectabilité. Il veut être respecté dans la ville, il veut être respecté dans le pays, et beaucoup d'immigrants ont ce désir de respectabilité.
Al Capone a entendu parler d'une campagne pour un nouvel hôpital pour enfants et a envoyé 1000 dollars. Puis, en y réfléchissant plus tard, il a décidé que ce n'était pas suffisant et a donné 500 dollars supplémentaires. L'Université de Pennsylvanie a organisé une soirée caritative de bienfaisance et peut-être pour plaisanter, a envoyé des tickets de tombola à Al Capone. Il en a acheté 200. Extrait du journal Anniston Star, le 10 mars 1930.
Et donc il va jouer, surjouer les codes de la respectabilité protestante et des hommes d'affaires. Il est présent dans les activités mondaines, comme le sont les hommes d'affaires, comme le sont les grandes familles de la ville. Il est présent dans l'espace public, il est un philanthrope aussi, comme le sont les hommes d'affaires et les grandes familles de Chicago et des autres villes. Et il est très présent partout.
Capone soutient la soupe populaire. Le philanthrope qui a ouvert une grande soupe populaire gratuite pour les chômeurs a été identifié par le Chicago Evening Post comme étant le célèbre leader de gang Scarface, Al Capone. Grâce à des sources proches du tsar de la pègre, le Post dit qu'il a vérifié le fait que Capone, avec l'aide d'amis, finance la cuisine et sert environ 1100 repas quotidiennement. Extrait du journal Paper Reports, le 14 novembre 1930.
He was everywhere. You know, like today, people hire sort of public relations firms to make.
Al Capone est partout. Aujourd'hui, comme vous le savez, les gens font appel à des entreprises de relations publiques pour construire leur image de marque, l'image qu'ils veulent renvoyer d'eux-mêmes à la société. Capone n'avait pas cela. Il était sa propre entreprise de relations publiques. Il était extrêmement conscient du mythe qui l'entourait. Il suscitait une véritable fascination et ses relations avec la presse étaient symbiotiques à bien des égards. Il savait qu'il jouait un rôle important et comment le public le percevait. Et les journaux savaient que s'il publiait des histoires sur son compte, les gens les liraient, que ce soit par dégoût, tant ils étaient opposés à ce qu'il représentait, ou par pure fascination. Il y a cet adage aux États-Unis qui dit « il n'y a pas de mauvaise presse ». Al Capone apportait des lecteurs aux magazines qui lui donnaient en retour la possibilité de donner sa version de l'histoire, celle qu'il souhaitait que les gens retiennent. Au cours de mes recherches, une des choses que j'ai réalisées, car pas mal de gens en ont parlé, c'est que lorsqu'il s'adressait aux reporters, c'était toujours des interviews très formatées. Il exprimait ses doléances, il disait combien c'était pénible d'avoir toujours les médias à ses trousses. Mais ce qui est intéressant, c'est que il ne dénigrait jamais la police de Chicago. Il ne dénigrait jamais ses ennemis. Il donnait une image très retouchée et très flatteuse de lui-même.
21 septembre 1930, de notre collaborateur Joe London de Chicago. Interview de Scarface Al Capone, l'homme aux 50 crimes. Al Capone entre, souriant. Tout de suite, je l'ai reconnu. J'ai vu si souvent sa photographie. Mais je l'imaginais moins grand, moins massif, avec des balafres plus visibles. Et je n'aperçois pas la rose qui, d'ordinaire, dit-on, fleurit sa boutonnière. Mais à sa place, un de ces boutons métalliques que portent souvent les Américains et qui est l'insigne d'un club. De quel club Al Capone peut-il bien faire partie? Les premiers mots d'Al Capone sont curieux. « So you are the guy who want to see me ?»« Alors, vous êtes le type qui voulait me voir ?» Je réponds du tac au tac. « I am the guy. Je suis ce type. » Et j'ajoute, imaginant candidement que Capone va être émerveillé, que j'arrive de Paris. Capone répond tranquillement. « Paris, Texas. I know the place. »« Non, Paris, France. » Du coup, Al Capone se montre agréablement surpris. « Oh, Paris, it's a fine place. I wish I could find time to go there someday. But I'm so busy. » Sa main fine et très blanche me désigne un siège. « Asseyez-vous. Glad to know you. » Al Capone, en apparence, est un homme doux, sympathique et disert. Et l'on a à peine à croire en le voyant qu'il est un monstre ayant sur la conscience une cinquantaine de crimes. Il s'exprime dans un anglais fort correct, sans accent. Au reste, s'il est italien d'origine, il est né à Brooklyn. Et pas un instant, je ne l'ai entendu user d'un mot grossier ou lancer un juron. Ajoutez qu'il ne manque ni d'esprit, ni d'à-propos, ni de finesse. « Vous êtes venu, me dit-il, voir celui qu'on traite de gorille. « Well, regardez le gorille. » Il éclate de rire, pirouette sur lui-même, ce qui me permet d'admirer la coupe impeccable de son complet gris-perle. Il me dit ensuite, « C'est bien simple. Quand la police ne trouve pas l'auteur d'un crime, elle dit que c'est Al Capone. Mais moi, j'ai autre chose à faire que tuer les gens. J'ai mes business. Seulement, on s'imagine que je tue. Parfois, même des gens m'écrivent pour me demander de commettre des crimes pour leur compte. Une grande dame anglaise m'a écrit un jour pour m'offrir 20 000 livres sterling. Combien cela fait-il de dollars? Si je venais passer le week-end chez elle et si j'en profitais pour la débarrasser d'un voisin gênant. Ridiculous. À vos cigares? » Est-il indiscret de vous demander quelles affaires vous traitez? Oh, you cute fellow! Vous le savez bien, l'Amérique a soif. Et ce n'est pas le Wall Street Act, la loi de prohibition, qui étanchera jamais cette soif. Haussant les épaules, enflant la voix, il s'écrie « Des hypocrites! Des hypocrites! Ce pays en a vraiment trop. I am sick of that game !» Al Capone poursuit. « Vous allez parler de moi? Je préférerais que vous n'en fassiez rien. » Les journalistes ont beaucoup trop parlé de moi, et cela me fait beaucoup de tort. En tout cas, j'espère bien que vous ne me traiterez pas de gorille. Sans langue. Cet hiver, si vous venez en Floride, popine, passez chez moi. Vous verrez mes belles fleurs. Et l'homme aux 50 cadavres me tend, toujours souriant, sa main fine et très blanche, le signifiant ainsi que l'entrevue est terminée.
Effectivement, Joe London, dans son livre « Deux mois avec les bandits de Chicago » de 1930, parlait de l'homme aux 50 cadavres, ce qui n'est pas exactement une appellation, disons, très positive. Mais en même temps, il reconnaît que c'est un homme qui dégageait un certain charme, une suavité, même presque un esprit de famille qui était tout à fait étonnant. Et par ailleurs, bon, c'est effectivement un self-made man, donc il a également incarné cette capacité, disons, où il a joué avec le mythe du succès américain, qui est, on sait, très important, en exposant son ambivalence.
On a un héros criminel, à la fois attirant et repoussant, fascinant.
Alan Bauer, professeur de criminologie.
Qui va dépasser largement les frontières de l'Illinois. Il va devenir un phénomène fédéral, national. Ce qui va permettre au FBI d'en faire l'ennemi public numéro un. Lui, il va devenir un personnage qui va être à la fois à Chicago, mais aussi avec les courses de chevaux en Floride, mais qui va essayer de se répandre en Californie. Bref, qui va essayer d'avoir une vision assez tentaculaire du sujet. Donc, on sent bien un développement considérable. Je suis le Tsar.
Dans les faubourgs de Chicago, avec un étui à violon, un homme mâcheur.
c'est la fin du premier épisode où nous venons de faire connaissance avec Al Capone dans son royaume de Chicago où rien ni personne ne lui résiste. Dans le prochain épisode, nous allons rembobiner le fil de sa vie et repartir depuis le début, à New York, là où tout a commencé. Nous y suivrons le petit Al dans son rêve de devenir gangster. Exit le droit chemin et bonjour le crime. Nous l'observerons apprendre en élève surdoué les rudiments du métier. Et avec lui, nous fréquenterons les mauvais garçons et les bas-fonds de New York où il va faire des étincelles en jouant les durs. À ses côtés, nous croiserons un parrain mafieux qui fera figure de mentor, une jeune Irlandaise qui deviendra son épouse et un affranchi qui lui laissera une vilaine cicatrice au visage et un surnom, Scarface. Puis, nous le retrouverons à Chicago au moment de la Prohibition, véritable début de l'âge d'or du crime organisé.
Quand il a un compte à régler, qu'un musicien le fait chanter, il sort son violon et comme pour l'accompagner, lui met le nez sur le pavé. Sans hésitation, son Stradivarius n'a de goût que pour les belles marches funèbres, les requiem. Et si vous aimez ce morceau, vous pourriez mourir bien trop tôt pour dire bravo. Car monsieur Al Capone se prend pour Paganini. Ah monsieur Al Capone, votre violon fait, votre violon fait trop de bruit. Ah monsieur Al Capone se prend pour Paganini. Ah monsieur Al Capone, votre violon fait, votre violon fait, votre violon fait trop de bruit.
C'était Al Capone, roi des gangsters. Épisode 1, Scarface en son royaume. Avec Alain Bauer, Doug Bukowski, Dale Capone, Clotilde Champerrache, Lou Corsino, Jojo Galvan-Mora, Hélène Arter, Romain Huret, Anne Keating, Richard Larsen, Richard Lindberg, Arthur Lurigio, Fabrice Risoli, Brad Schwartz et Benoît Tadier. Avec les voix de Nathalie Canouy, Éric Charon, Claude-Bernard Perrault, Florent Schepp, Daniel Delabesse, Thierry Beauchamp, Philippe Girard, Jean-Christophe Quenu, Dominique Journet-Ramel, Barbara Carlotti, Daniel Königsberg et David Sigicelli. Traduction, Abigail Boucher, Park Krozen et Annika Scherer. Archivina, Ingrid Lecointe. Extrait du film L'affaire Al Capone et de la série Boardwalk Empire. Documentation musicale, Antoine Buyoz. Prise de son extérieur, Martin Troadec. Prise de son studio, Bastien Varigo, Lucas Finet, Marie Lepeintre, Mathieu Leroux, Alison Ascrisi, Guillaume Ledu et Valérie Lavalard. Mixage, Jason Taous. Coordination, Christine Bernard. Une grande traversée de Federico Polo Devoto, réalisée par Marie-Laure Ciboulet.